Voilà. Bonjour à tout le monde,
à toutes et à tous.
Alors, vous connaissez ma position sur le hasard, il n'y a pas de hasard. Hein, tout ce qu'a dit Isabelle, ben, je vais leur dire. Ben, différemment, hein, ça ne va pas être de la redite, mais on va... Alors c'est vrai, j'aurais pu prendre acte et parler de la Pentecôte, mais j'ai été vraiment touché par cette prière sacerdotale de Jean 17. Et vous allez voir qu'on va retrouver aussi beaucoup d'éléments que nous a partagé Odette la dernière fois, dans son témoignage. Et ben, je me suis laissé diriger par, par cette prière qui m'a beaucoup touché. Donc bonjour à toutes et à tous ce matin. Alors on va essayer d'analyser et méditer la très belle prière sacerdotale qui a été prononcée donc par Jésus et qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Je vous ai mis des petites méditations pour vous inciter aussi à méditer sur le texte, sur la prière. Alors je ne ferai pas toute la prière et j'en laisserai pour le 24 juillet. Hein, je ne pars pas en vacances à ce moment-là, et je ferai la troisième partie donc de la prière sacerdotale. Est-ce que vous connaissez cette prière sacerdotale de Jésus? Non, d'accord. Alors je suppose quand même que vous l'avez lue, mais peut-être ignorez-vous pourquoi cette prière est appelée sacerdotale et ce que ce terme signifie. Ben, il s'agit tout d'abord, sachez-le, de la prière la plus longue de Jésus qui soit rapportée par la Bible, et elle couvre 26 versets. Elle est ensuite appelée sacerdotale car elle est prononcée par le souverain sacrificateur de l'humanité, à savoir Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui débute son office sacerdotal dans le monde et la termine en offrant à Dieu le plus grand, le plus merveilleux, le plus somptueux sacrifice qui soit, c'est-à-dire lui-même. Il s'offre lui-même. Il va offrir sa vie en sacrifice par amour pour l'humanité perdue, mais aussi pour la gloire de Dieu. Alors avant d'étudier la prière de Jésus, je pense qu'il est toujours utile de savoir dans quel contexte elle a été prononcée. À la fin du chapitre 16, Jésus est à la veille d'être livré par Judas. Et il est là au milieu de ses disciples et il leur adresse une double exhortation. Il leur dit « L'heure vient, elle est déjà là où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. » Jean 16, 32. Alors la croix va être pour Jésus un grand moment de solitude. D'abord avec Dieu le Père. Hein, rappelez-vous ce qu'il lui dit, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais aussi avec ses disciples qui pour la plupart vont fuir, le trahir et même le renier. Abandonnons Jésus à son triste destin. Alors, bien qu'abandonné de Dieu et des hommes sur la croix du calvaire, Jésus sait, par la foi, qu'il n'est pas seul, et il le témoigne à ses disciples. Si Dieu l'abandonne à sa destinée salvatrice, lui qui porte le péché du monde, hein, Dieu l'abandonne pas, mais il le rejette parce qu'il porte le péché du monde, le Père est bien présent dans l'épreuve. Il le soutient, l'entoure de ses bras d'amour, l'assiste dans ses souffrances, terrible qu'il traverse et endure. Frères et sœurs, cette attitude de Jésus doit être pour nous un exemple à suivre dans les épreuves que nous traversons. Hein, il le dit, hein, Jean 16, 33, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. » Frères et sœurs, avons-nous la paix que Jésus donne? C'est dans cet exemple de confiance en Dieu lors de l'épreuve de la croix que nous pouvons trouver à la fois paix et sérénité. La seconde exhortation, elle est un peu plus courte, mais ô combien profonde et puissante. Dans le monde, hein, il dit à ses disciples, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, Voilà, c'est à nous qui dit ça. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Moi j'ai vaincu le monde. Jésus ne cherche clairement pas à rassurer ses disciples en leur disant par exemple « Vous inquiétez de rien, vous inquiétez surtout pas, tout va bien se passer pour vous, vous allez être clean, super bien quoi. » Non, il veut au contraire les encourager à ne pas sombrer dans le défaitisme. Alors certes, dit Jésus, vous aurez inévitablement à passer par des épreuves et des souffrances. Il y en aura dans ce monde pécheur, dans cette humanité dure et sans réelle compassion, dans ce monde dirigé par Satan. Mais dit Jésus, surtout, gardez courage. Gardez courage. Alors, en qualité de divin berger, Jésus appelle ses disciples à ne pas se décourager par les souffrances qu'ils vivent et qu'ils vont vivre. À ne pas sombrer avec le monde dans le pessimisme ambiant, dans l'amertume dans lequel vit le monde. En réalité, il s'agit bien plus que des paroles de réconfort. Jésus, le Sauveur du monde, demande à ses disciples de s'appuyer sur ses promesses et de saisir la victoire qu'il a remportée à la croix sur le monde, sur Satan et sur la mort. Gardez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et voilà, il va expliquer, hein, c'est Paul dans sa belle lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15, qui explique la victoire de Jésus. Voilà ce qu'il écrit. Et il s'adresse à nous. Oui, vous étiez morts par vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant à Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui, en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Et voilà la victoire. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusait, car il mentionnait toutes nos transgressions de la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Vous le croyez, ça? Non? Oui, oui. Il a démasqué et puis désarmé les autorités et dominations de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal à la croix. Ça aussi, vous le croyez? Oui. Frères, sœurs, en nous saisissant par union avec Jésus-Christ de cette belle victoire spirituelle que Jésus a remportée à la croix sur Satan et le monde, nous sommes remplis de courage, n'est-ce pas? Amen. Ah bon. Après avoir ainsi parlé à ses disciples, Jésus leva les yeux vers le ciel et prononça les premiers mots de sa prière sacerdotale. Jean 17:1. Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. Alors, d'une manière générale, les théologiens voient dans cette prière de Jésus trois parties bien distinctes. Alors, la première partie, elle va du verset 1 au verset 5. Jésus prie pour lui-même, pour sa propre glorification. Alors, à l'aube de sa mort, Jésus, Dieu le Fils, se tourne résolument vers Dieu le Père dans une prière poignante et pleine de force pour l'assurer de son obéissance totale et parfaite. S'il y a un seul et unique Dieu, vous le savez, vous qui avez signé aussi la confession de foi de l'Église, en Dieu, il y a trois personnes. Le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu, et le Saint-Esprit qui est aussi Dieu. Voilà, trois personnes, un seul Dieu. Les trois ne font qu'un, car il y a unité de décision et d'action, mais aussi de volonté entre les trois personnes. Ils font tout ensemble d'un commun accord. Alors, Dieu le Père est celui qui décide dans un élan d'amour, il décide avec le Fils, qui lui exécute les ordres du Père par amour pour lui, mais aussi par obéissance et soumission. Le Père, c'est l'autorité dans l'amour absolu. Le Fils, c'est l'exécutant dans l'obéissance parfaite et l'amour total. Vous voyez ? Ils ne font qu'un, mais ils se complètent. Dieu le Père a confié à Jésus le Fils la mission de faire connaître son nom au monde. mais aussi d'offrir sa vie pour le salut de l'humanité perdue. Verset 4, « J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. » Lorsque Jésus prononce ces paroles, il n'a accompli que la première partie de sa mission. Il a fait connaître le nom de Dieu. Pourtant, il assure le Père qu'il ira jusqu'au terme de sa mission. Si Jésus est Dieu, s'il agit par amour, alors n'imaginons surtout pas que cette mission fut pour lui un banal parcours de santé. Bien au contraire, vous savez, on a l'habitude de dire « Oui, mais Jésus est mort sur la croix », comme si c'était quelque chose, un fait banal. Hébreux 5,8 « Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Cet apprentissage de l'obéissance a trouvé son point culminant sur le mont des Oliviers. Vous vous souvenez, lorsqu'en proie aux tourments, aux angoisses, il se mit à genoux et pria ainsi, « ô Père, si tu le veux, épargne-moi la coupe de l'épreuve. » Vous vous rendez compte? Face à la pensée des souffrances à venir, de la mort infâme sur la croix, Jésus est tenté de tout arrêter, de mettre fin à sa mission. Il souffre par avance et il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. Pourtant, Jésus s'accroche à l'autorité du Père, à la volonté de Dieu. Et il dit, « Toutefois que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Luc 22, 42. Et vous savez que Dieu le Père n'abandonne jamais le Fils dans la difficile épreuve qu'il va traverser. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Dans peu de temps, Jésus va parvenir au terme de sa mission glorieuse. Elle est glorieuse d'abord pour Jésus, car lui seul pouvait la réaliser, il n'y en avait pas d'autre. Lui seul était l'agneau sans tache, pur et sans défaut, capable de nous libérer du péché. Jean 1, 29, vous vous souvenez, quand Jean-Baptiste voit passer Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Voici l'agneau de Dieu, c'est celui qui enlève le péché du monde. Elle est ensuite glorieuse pour Jésus, car il est allé jusqu'au bout de sa mission et en est sorti vainqueur. Jean 19, 30, après avoir goûté le vinaigre qu'on lui tendait, il dit du haut de la croix, « Maintenant, tout est accompli. » Alors il pencha la tête et rendit l'esprit. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Elle est enfin glorieuse pour Jésus, le Fils unique du roi des cieux, qui reçoit la reconnaissance de Dieu, des anges et du royaume pour la mission qu'il a accomplie. Apocalypse 5, versets 11 et 12. « Tous ceux qui étaient rassemblés autour du trône disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, et la gloire et la louange. » Par la mort glorieuse de Jésus, pleine d'espérance pour l'humanité perdue, Dieu lui-même, il en sort glorifié. La mort de Jésus, vous savez, elle a fermé trois portes spirituelles, et en a ouvert trois nouvelles pour la gloire du Père. Alors il a tout d'abord fermé la porte de l'éloignement d'avec Dieu pour ouvrir la porte de la réconciliation. Romains 5, 10, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Frères, sœurs, sommes-nous réconciliés par la mort de Jésus ? Oui. Amen. Il a ensuite fermé une autre porte, la porte de la mort spirituelle, pour ouvrir la porte de la vie éternelle. Romains 6, 23, le salaire que verse le péché, c'est la mort. On était morts. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, nous sommes vivants. Voilà, nous avons la vie éternelle. Avons-nous reçu la vie éternelle que Dieu donne en Jésus-Christ ? Oui. Et il a enfin fermé la porte à l'esclavage de Satan et du péché pour ouvrir la porte de la liberté. Galates 5.1, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Les gens du monde, ils se croient libres. Mais c'est une fausse liberté. Maintenant, nous avons la vraie liberté en Jésus-Christ. Vivons-nous pour Dieu la liberté qui nous a été offerte en Jésus-Christ ? Oui. Frères, sœurs, glorifions-nous Dieu dans nos vies par la grâce que nous a offerte Jésus. Oui. La deuxième partie de la prière qui va du verset 6 au verset 19. Jésus prie pour ses disciples, mais aussi pour celles qui vont le devenir. Vous savez, lors de sa mission terrestre, Jésus remercie le Père de lui avoir confié toutes celles et ceux que Dieu avait choisis d'avance pour être sauvés. Verset 6. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient. Ils ont gardé ta parole, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Jésus a pris soin d'eux et les a instruits par la parole de Dieu, la parole de vérité. Il leur a donné l'exemple à suivre. » À présent, Jésus y prie pour eux, il prie pour nous, les disciples. Verset 9, « Je te prie pour eux. » Alors écoutez bien ça. « Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. » Jésus montre par ces quelques mots qu'il a une double responsabilité. La première, c'est celle de divin berger. C'est notre divin berger, Jésus. Jean 10, 14, « Moi, je suis le bon berger. Je connais chacune de mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. » On peut être surpris que Jésus puisse dire « Je ne te prie pas pour le reste des hommes. » Nous, on prie pour le monde, on prie pour le reste des hommes, pas Jésus. Mais en tant que Dieu, Jésus connaît parfaitement le cœur de chaque personne. Ce que moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas le cœur des gens. J'arrive pas à voir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Il connaît celles et ceux qui, dans le monde, n'accepteront jamais de le reconnaître. Jamais de le rencontrer. Alors, il prie pour celles et ceux qui répondront à son appel. Alors, c'est sûr que Jésus, il n'exclut personne. Verset 20. Ce n'est pas seulement pour eux, les disciples, que je te prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Et à travers ce verset, Jésus, il confirme ce qu'il disait déjà en Jean 10, verset 16. Il disait, « J'ai encore d'autres brebis, c'est-à-dire nous, qui ne sont pas de cet enclos ou de ce troupeau. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Et je remercie le Seigneur qu'il a pensé aussi à vous et à moi. Dans ces conditions, le second rôle de Jésus, il est capital. C'est celui d'intercesseur. Romains 8, 34, « Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu maintenant, et il intercède pour nous. » Aujourd'hui, après sa mission terrestre accomplie et sa résurrection, eh bien Jésus prie le Père pour nous. Il appuie nos prières, il use de sa divine influence auprès de Dieu pour nous soutenir. Savons-nous que nous avons en Jésus un intercesseur puissant auprès du Père? On y pense dans nos prières? Merci, Bernadette. En venant dans le monde, en accomplissant sa mission et en ressuscitant, Jésus a spirituellement coupé l'humanité en deux parties. D'un côté, il y a ceux qui croient, suivent Dieu et sont sauvés, et de l'autre côté, ceux qui refusent de croire et font la guerre au premier, c'est-à-dire nous. Jésus décrit parfaitement cette situation, au verset 14. Jésus dit « Je leur ai donné ta parole aux disciples, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi, je ne lui appartiens pas. » Le monde noué, parce qu'on suit Jésus et qu'on ne suit pas l'esprit du monde. Frères, sœurs, cette coupure de l'humanité en deux a installé deux esprits. D'un côté, l'esprit de vérité qui vient de Dieu et qui habite les disciples du Christ, et puis de l'autre côté, l'esprit du monde, qui est l'esprit de Satan, du mensonge, qui habite les incrédules et ceux qui sont rebelles à Dieu. Alors à présent, Jésus adresse au Père sa première demande pour les disciples. Elle va commencer curieusement par une négation. Verset 15. « Je ne te demande pas de les retirer du monde. » Alors pourquoi cette non-demande? On peut penser que Jésus, qui connaît toutes choses, connaît aussi la volonté de Dieu d'une part, mais d'autre part, il connaît aussi les aspirations des disciples à éviter les persécutions, à éviter la haine de ce monde et leur aspiration à avoir une vie paisible. Nous, en tant que disciples, est-ce que vous avez envie, vous, d'être persécutés? Ah non. Est-ce que vous avez envie, vous, de vous prendre des coups, de subir la haine du monde? Ah non, on n'a pas envie. Hein. N'avons-nous pas, frères et sœurs, les mêmes souhaits? Et c'est vrai, on n'a pas une attitude de masochiste, au point de vouloir absolument souffrir. Nous retirer du monde ou demander à Dieu de nous séparer des incrédules, ben c'est vrai que c'est une pensée confortable pour nous, mais purement humaine. La pensée de Dieu est tout autre. Il nous veut dans le monde, afin que nous répondions par un témoignage d'amour à la haine ou l'indifférence qui anime ce monde et qui nous entoure. Dans Matthieu 5, versets 13 à 16, c'est très bien expliqué. « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est du même d'une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Ce que Dieu veut, nous, c'est qu'on témoigne, c'est qu'on soit bien visible, c'est qu'on soit au milieu du monde. Vous le voyez, la volonté de Dieu exprimée par Jésus est claire. Il veut que nous soyons dans le monde pour éclairer celles et ceux qui se perdent, donner un sens à leur vie, une saveur à leur existence. Est-ce que nous demandons à Dieu de faire de nous des lumières? Est-ce que nous demandons ça? Et puis Jésus rajoute, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Frères et sœurs, chacun de nous est appelé à évangéliser par son témoignage de vie, pas forcément par les paroles. Son voisin, son collègue de travail, les membres de sa famille, le monde qui l'entoure, et ainsi de glorifier Dieu, c'est ça notre mission dans le monde. C'est ça notre mission. Si donc la demande de Jésus est de nous garder dans le monde, eh bien il reste bien conscient, Jésus, que les disciples vont vivre des souffrances et des persécutions de la part de ce monde sans Dieu, qui n'a pas du tout envie d'entendre ce qu'on lui apporte. Voilà pourquoi le divin berger intercède pour ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit ? « Mais je te demande de les préserver de l'esprit du mal ou de l'esprit du malin. » En réalité, Jésus et le Père nous veulent dans le monde, mais sous la protection de Dieu. Voilà. Vous savez que lorsque nous devenons disciples de Jésus, nous changeons complètement de statut. Nous passons d'esclaves de Satan à ennemis de Satan. Au lieu de nous asservir, il va désormais nous combattre, nous faire la guerre de toutes ses forces et de toute son énergie, en nous livrant une guerre totale dans le but de nous éliminer, afin que nous ne témoignions pas au monde l'amour du Christ, et puis surtout que nous n'apportions pas la possibilité au monde d'obtenir la victoire de Jésus. Ce serait une catastrophe pour Satan. L'apôtre Pierre, qui a vécu vraiment ce combat spirituel, nous met en garde. Qu'est-ce qu'il dit ? 1 Pierre 5,8. Il dit « Attention, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Alors, pour celles et ceux qui ignorent ou doutent qu'il existe un combat spirituel, moi je rappellerai ce qui s'est passé ici même dans cette salle, il y a plusieurs mois en arrière, et dont certains sont encore là pour en témoigner. Je faisais un message sur le combat spirituel. Et puis, il y a quelqu'un que je n'avais jamais vu avant, deux personnes que je n'avais jamais vues avant, une jeune fille qui était derrière, et puis un homme qui s'appelait Luca, qui passait dans l'église, qui faisait le tour de la salle. Et par qui était-il envoyé? Je ne sais pas. Et cet homme, il passait dans l'église, et puis la jeune fille, elle pleurait derrière, elle pleurait. Elle a demandé à venir témoigner, elle est venue ici, elle a dit « Ce que dit cet homme est vrai ?» Elle parlait de moi. Et Lucas, il est venu me voir à la fin du culte, c'était un ancien militaire, il m'a dit « J'ai envie de vous frapper. » Je le faites pas. Hein. J'avais pas du tout envie qu'il me frappe, moi, en plus. Hein. Mais c'est vrai que Satan, il envoie ses sbires pour nous faire peur, pour nous épouvanter. Et moi, je suis rentré chez moi, et arrivé chez moi, ben, j'ai reçu un message de lui sur mon portable, alors qu'il n'avait pas du tout mon adresse. J'ai pas bien compris le... Pour bien comprendre ce que veut dire Jésus lorsqu'il dit « Je te demande de les préserver de l'esprit du malin », il faut imaginer une guerre proche de chez nous, dans laquelle l'adversaire utilise trois grandes armes de destruction massive, dans laquelle le disciple est sous la protection de Dieu qui lui livre des armes spirituelles défensives. Alors, il y a plein d'armes de l'ennemi, mais la première arme de l'ennemi, c'est l'esprit de destruction. Le diable ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet. Par contre, il peut faire peur. Hein? Quand Odette nous racontait qu'elle avait entendu une voix qui lui disait « Tu vas mourir », ça fait peur. Il peut décourager. Pour cela, il va utiliser l'esprit de destruction qui comprend la persécution, la maladie, les accidents et les problèmes de tous ordres, etc. Bon, je ne vais pas vous raconter tous mes exemples personnels, je le ferai la prochaine fois pour la prière de l'Église. Si le diable est notre ennemi, Dieu est notre protecteur. Et David pouvait dire, dans le psaume 62,8, « Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. » C'est-à-dire, d'un côté on a peur, mais de l'autre côté on est soutenu par Dieu, on est protégé. La deuxième arme de l'ennemi, c'est l'esprit de mensonge, qui inonde ce monde. Avant d'être chrétien, regardez ce que j'avais acheté. Jésus a vécu au Cachemire, la tombe de Jésus. C'est-à-dire que dans ce livre, qui avec des détails vraiment importants et des preuves, il montre que Jésus n'est pas mort sur la croix, que Jésus, il a vécu au Cachemire, il s'est marié, et il a vécu à côté de Marie. Ce qui est complètement contraire à ce que dit la Bible. Esprit de mensonge. Le diable, selon la Bible, est le père du mensonge, Jean 8, 44. Il distille dans le monde le mensonge, de telle sorte que plus personne ne sait ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bien de ce qui est mal. Et le diable crée la confusion dans tous les esprits et peut ainsi tromper les gens et les garder dans l'ignorance et sous son autorité. Dieu nous préserve de l'esprit du mensonge en nous offrant l'esprit de vérité, à nous, chrétiens, les disciples. Et c'est ce qu'a dit Isabelle, le Saint-Esprit. Jean 15, 26, l'esprit de vérité qui vient du Père. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité qui s'oppose au mensonge, qui nous est donné à la nouvelle naissance, qui demeure en nous et qui dirige nos pas. Jean 16, 13, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, pas une partie de la vérité, dans toute la vérité. Mais Dieu nous donne une seconde arme pour lutter contre le mensonge, la Bible, la parole de Dieu, Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité ». Répétez-le. « Ta parole est la vérité ». Voilà. Notre source d'information, notre référence, est-elle la parole de Dieu ? La lisons-nous. Et puis la troisième arme de l'ennemi, c'est l'esprit de division. Si vous ne le croyez pas, regardez tous les divorces qu'il y a autour de nous. Vous le savez, le diable pratique la division. Il va tout mettre en œuvre pour nous séparer de notre protecteur qui est Dieu. Nous sommes unis, attachés à Christ par les liens puissants de la foi. C'est la foi qui nous unit à Christ. Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. Comme les disciples de Jésus, Satan, lui, il connaît parfaitement la Bible. Et il connaît surtout cette vérité biblique, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Il connaît ça par cœur, Satan. Et Satan va donc s'attaquer à la foi du disciple, en créant les circonstances qui l'empêchent de lire, d'écouter la parole de Dieu. Alors vous connaissez ça, comme moi, parce que moi je l'ai vécu aussi. La fatigue, le manque d'envie, le manque de temps, la suractivité, les soucis du monde, les problèmes divers. Toutes ces flèches enflammées vont faire que le disciple commence à lire moins la parole, il prie moins, puis il ne lit plus, il ne prie plus, et puis il s'éloigne progressivement de Dieu, et puis il est sous le feu de Satan. Je vous invite à lire chez vous, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, Proverbe 6-10. Lisez Proverbe 6-10. Moi, je me suis reconnu dans Proverbe 6-10. Si nous ne lisons pas la Bible, la parole de vérité, mais qui est aussi la nourriture indispensable à notre spiritualité, nous perdons la divine substance, la sève qui alimente notre foi. Et ça, c'est une aubaine pour Satan, qui peut nous entraîner dans de fausses doctrines que l'ennemi déguisé en ange de lumière fait passer pour des doctrines bibliques. Vous savez, c'est pas tous ceux qui parlent de Dieu, du royaume, etc., qui sont vraiment envoyés par Dieu. Le Dieu protecteur nous demande de prendre toutes les armes spirituelles qu'il met à notre disposition, et en particulier la foi. Éphésiens 6,16 « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de l'esprit du malin. » Toutes. Voilà. Frères, sœurs, nous appuyons-nous sur la prière de Jésus. « Père, préserve-les de l'esprit du mal. » Voilà, on peut demander à Jésus qui nous préserve de l'esprit du malin. Je vous remercie pour votre écoute. Et le dimanche 24 juillet, je ferai la troisième partie de la prière sacerdotale, qui est Jésus prie pour son Église. Merci.
Merci Daniel.